Bonjour. Le retour à la normale en Isère après les fortes chutes de neige, la circulation a partout repris, mais des milliers de foyers restent sans électricité comme en Savoie et Haute-Savoie. 5 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont en vigilance orange, neige et verglas jusqu'en début d'après-midi. Situation délicate également dans les Pyrénées-Orientales. Quand des députés de La République En Marche reprennent un vieux slogan de France Inter et font entendre leurs différences, l'un d'eux propose de rétablir l'ISF pour ceux qui laissent dormir leur argent. Un autre prévient qu'il ne votera pas la loi anti-casseurs. Que plus personne ne dorme dans la rue à la fin 2017, c'était une promesse du président Macron qui venait juste d'être élu et qui a dû reconnaître son échec sur ce point. Plus d'un an après, rien n'a encore changé. Les associations de solidarité tirent la sonnette d'alarme, c'est le droit de suite de ce journal. Un journal au cours duquel nous irons en Pologne, où un nouveau parti voit le jour. Ce dimanche, parti fondé par un ancien élu local de gauche, homosexuel et athée. Une vraie gageure dans ce pays ultra-catholique et conservateur.
France Inter.
Des rafales à plus de 180 km/h ce matin dans les Pyrénées-Orientales. La tramontane s'est déchaînée sur l'ensemble du département, entraînant des conditions polaires dans les montagnes catalanes. Météo France annonce pour cet après-midi une température ressentie de moins 15 à Font-Romeu, par exemple. Après les importantes chutes de neige de ces dernières heures, la circulation reste difficile en Cerdagne. L'accès en Andorre est fermé, tout comme l'école de Joux et Puy-Morens. Mais c'est dans les Alpes que la situation reste encore la plus délicate. 10 000 foyers étaient privés d'électricité ce matin en Isère, 5 000 en Savoie et Haute-Savoie, Sarah Gillement à Chambéry.
Déjà sur le réseau électrique, 5 000 foyers étaient encore privés d'électricité en Haute-Savoie et en Savoie ce matin. Des coupures plutôt éparses avec une partie des habitations en périphérie de Chambéry impactées. Sur les routes, la circulation reste délicate mais uniquement sur le réseau secondaire. Des arbres ont cédé sous le poids de la neige vers Rumilly en Haute-Savoie et dans les Bauges en Savoie. Hier, 900 étudiants étrangers venus de Belgique et de Hollande à Saint-Sorlin-d'Arves en Maurienne n'ont pas pu repartir chez eux, leur bus bloqué. Un tiers d'entre eux ont dû passer la nuit dans des salles communales. Les 600 autres ont pu reprendre la route au fur et à mesure. Aujourd'hui, pour monter en station de ski, les précautions restent les mêmes. Il faut évidemment avoir des pneus neige et toujours des chaînes dans le coffre au cas où. Le risque d'avalanche est descendu à 3 sur 5 sur les massifs alpins. Mais même avec ça, la plus grande vigilance reste de mise. Les autorités déconseillent de faire du hors-piste. Hier, une chambérienne est morte emportée par une coulée de neige à Valsonny sur un secteur non balisé.
Sarah Gillement. En Isère, la 48, après avoir été coupée pendant plusieurs heures, a été rouverte à la circulation ce matin des véhicules légers. Pour les véhicules légers équipés de pneus neige uniquement, une centaine de véhicules ont été bloqués la nuit dernière sur cette autoroute. Je rappelle que 5 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance orange jusqu'en début de cet après-midi. On vient de l'entendre, 900 étudiants belges et néerlandais sont restés bloqués la nuit dernière à Saint-Sorlin-d'Arves, comme aussi certains de leurs compatriotes bloqués, eux, en Ariège, à l'Hospitalet, près l'Andorre. 60 néerlandais hébergés dans la salle des fêtes et dont le bus mal équipé n'a pas pu aller très loin, comme le raconte le maire Arnaud Diaz au téléphone de Simon Cardona de France Bleu Occitanie.
Juste un peu au-dessus du village, un kilomètre, les chaînes s'enroulaient autour du moyeu et plus possible d'avancer, reculer. Donc la préfecture nous a appelés pour voir si on pouvait accueillir ces jeunes à la salle des fêtes. Donc c'est ce qu'on a fait, on a ouvert, on a chauffé et on les a accueillis, on les a mis à l'abri. Puis 60 clients d'un seul coup aussi, c'est bien aussi pour les commerces de l'hospice, quoi. Je pense qu'il en reste encore peut-être un peu parce qu'ils partent avec des taxis, ils partent au compte-gouttes, quoi, coup de 5. Quoi. Donc ils vont arriver dans la journée à Nambour. Cet hiver, ça fait deux fois. La dernière fois, c'était il y a une semaine. Alors là, pour le coup, c'était moins bien parce que c'était un bus espagnol avec des jeunes aussi qui allaient au ski. Pas équipé, ça c'est pas bien. Et 1h du matin. Là, c'est moins rigolo, là. Et voilà. On est là pour ça. Ça fait partie de notre rôle aussi. Puis l'Hospitalet, c'est un village qui est, ça fait partie de son histoire. Il y a une légende sur ça, accueillir les voyageurs en difficulté. Ça fait partie de nous.
Voilà, parmi les conséquences de ces chutes de neige également ce matin, à noter l'annulation du géant de Garmisch-Partenkirchen. En politique, un référendum le 26 mai, le même jour que les élections européennes, serait un grand risque pour Emmanuel Macron. C'est ce que souligne ce matin Laurent Wauquiez, qui réagit aux hypothèses couramment avancées d'un référendum à questions multiples. Mais sur quel sujet demande en substance le président des Républicains, invité de CNews, s'il s'agit seulement de changer les règles électorales et le fonctionnement des institutions institutions, dit-il, ce ne sont pas des sujets de préoccupation pour les Français. Et c'est ce que dit aussi Marine Le Pen sur BFM. La présidente du Rassemblement National ne voit pas ces questions institutionnelles émerger du grand débat. Ce ne sera pas la solution à la crise des Gilets jaunes, dit-elle. Si Emmanuel Macron le pense, il se trompe. En attendant, ce grand débat diffuse aussi au sein de la majorité avec une nouvelle proposition ce matin sur l'ISF. Le député de La République En Marche du Vaucluse, Jean-François Cesarini, propose de réintroduire l'impôt sur la fortune pour ceux qui laissent dormir leur argent. Une vingtaine de ses collègues seraient d'accord avec lui, il l'a dit à France Info.
Remettons l'ISF, je veux dire, de la manière dont il était à l'époque, sauf que, en gros, la promesse du candidat Macron, la promesse du président, c'était de dire « j'enlève l'ISF et vous verrez, cet argent-là va rentrer dans l'économie réelle ». On dit ben, « soyons alors plus incitatifs que ça pour à la fois relever et vraiment assumer cette promesse ». C'est-à-dire, et quand on investit cet argent-là, dans des TPE, dans des PME, dans des start-up, alors effectivement, vous ne payez pas l'ISF. Si vous faites dormir votre argent, alors vous payez l'ISF.
On a le droit d'exprimer ses différences, ajoute Jean-François Cesarini, comme le fait aussi son collègue Aurélien Taché, qui lui se dit opposé à la loi anti-casseurs. Il le dit au JDD ce matin, il ne la votera pas, notamment en raison de son article 2, un article qui permet au préfet d'interdire de manifestation toute personne dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public. Ce faisant, ajoute le député du Val-d'Oise, on sort du schéma qui est le nôtre depuis la Révolution française et qui fait du juge le gardien de nos libertés. C'était en juillet 2017. Le président de la République, fraîchement élu, disait souhaiter que plus personne ne dorme dans la rue d'ici la fin de l'année. Un an plus tard, il reconnaissait son échec en constatant qu'un certain nombre de publics fragiles restent en dehors des politiques publiques. Sans compter aussi la pression migratoire, toujours aussi forte. 18 mois plus tard, au cœur de l'hiver, rien n'a encore changé. C'est le droit de suite de ce journal. Illustration à Lyon, Christophe Vincent.
Thierry a dû quitter sa chambre dans un foyer Sonacotra. À 59 ans, il est à la rue depuis 4 mois. Alors, il s'abrite au pied d'un escalator qui mène au métro Perrache.
C'est là que je vais passer 3 quarts de ma journée, jusqu'à 5h30, 6h, et après je vais me coucher. Sous les voûtes, au chaud, au froid, je m'en fous. Tant que j'ai mon duvet et mes couvertures, c'est bon. C'est pour ça que je garde mes 3 sacs avec moi. Au 115, on me dit, il n'y a pas de place. Moi, je laisse tomber le 115 après. Tous mes potes de surveillance, ils veulent que j'aille dormir chez eux. Je dis non, je ne vais pas chez vous. Je préfère dormir dehors, moi, je suis tranquille.
Emmanuel Macron avait dit, fin 2017, il n'y aura plus personne qui dormira dans la rue.
Je ne l'ai pas cru du tout. On attaque 2019 et on est toujours à la rue.
À Lyon, les 5700 places d'hébergement pérenne sont occupées et malgré les 1410 places supplémentaires du plan Grand Froid, ils sont plusieurs centaines à dormir dehors. Sébastien Guth, porte-parole du foyer Notre-Dame des Sans-Abri.
Toutes les personnes qui sont sensibles à l'exclusion ne peuvent avoir que comme but d'éradiquer la misère et qu'il n'y ait plus une seule personne dans la rue. Si on avait la solution, on aurait déjà trouvé depuis longtemps le moyen de sortir tout le monde de la rue. La solution, elle est multiple. Elle passe par des innovations en matière d'accueil et d'accompagnement des personnes sans-abri. Elle passe par un changement de regard aussi, un changement de posture vis-à-vis des plus démunis pour proposer des choses qui permettent finalement au plus grand nombre de s'en sortir et de sortir durablement de la rue tout simplement.
Autant de sans-abri, autant de situations, explique l'association qui s'inquiète du grand nombre de mineurs isolés âgés parfois de 15 ou 16 ans. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Invité de ce droit de suite, Florent Guéguin, directeur de la Fédération des associations de solidarité. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez lancé l'alerte cette semaine à l'approche de la tempête Gabriel sur ces milliers de sans-abri qui sont toujours en danger, faute d'hébergement disponible, dites-vous. Pourtant, 14 000 places d'hébergement hivernal ont été mises à disposition dans tout le pays dès l'automne dernier. Et puis les maraudes ont été renforcées, mais c'est toujours insuffisant.
Oui, c'est ça. Nous observons que la situation des personnes sans domicile fixe, elle est catastrophique cet hiver. Il y a des milliers de personnes qui dorment dehors. Certaines tentent d'obtenir une place d'hébergement en appelant le 115 et sont en très grande majorité rejetées via le 115 faute de place disponible. C'est entre 400 et 500 personnes par exemple chaque jour à Paris qui appellent le 115 sans obtenir de place, avec une situation qui est tout aussi critique dans d'autres grandes métropoles. Vous avez cité Lyon, il y a aussi Lille, Toulouse ou Nantes, où la situation est très très difficile. Alors, L'État ne reste pas inactif. Il y a bien effectivement eu un effort de fait, notamment sur les places d'hébergement hivernales, 14 000, le fait est que cet effort ne suffit pas et que le nombre de personnes sans domicile fixe, qu'on évalue nous à 200 000 personnes France entière, est en augmentation, avec de plus en plus de personnes qui vivent dans des conditions catastrophiques, à la rue ou en campement ou dans des squats. Donc nous avons lancé cette alerte, j'irais avec des mesures d'urgence qu'il faut prendre à court terme, ouvrir tous les bâtiments disponibles, des bâtiments qui peuvent appartenir à l'État, mais aussi aux collectivités locales ou à des entreprises privées. Ça, c'est pour les mesures d'urgence. Et puis, il y a des mesures de long terme à prendre parce que on ne réglera pas la question du sans-abrisme en France et on n'atteindra pas l'objectif que s'est donné le président de la République d'aucune personne à la rue seulement par des mesures au moment de l'hiver qui sont des mesures précaires comme, par exemple, l'ouverture des gymnases.
Oui, c'est pas seulement un problème immobilier, évidemment.
Il faut aussi une politique structurelle, à la fois d'ouverture de centres d'hébergement pérennes, notamment pour les familles, parce que ce que nous observons via le 115, c'est qu'une personne sur deux qui sollicite un hébergement aujourd'hui est en famille, souvent des familles avec enfants, souvent des mères seules avec enfants d'ailleurs, qui sont particulièrement vulnérables. Or, le dispositif d'hébergement, il est non seulement insuffisant d'un point de vue quantitatif, mais il a aussi un problème qualitatif, c'est-à-dire que les places sont réservées et adaptées à l'accueil d'hommes seuls, isolés, et il nous manque beaucoup de places pour les familles avec enfants.
Alors
il faut aussi une politique structurelle.
Voilà. Qu'est-ce que vous appelez
production de logements très sociaux, parce que
Florent
Guéguin, l'hébergement, c'est l'accès au logement.
Qu'est-ce que vous appelez des logements très sociaux et des hébergements pérennes, comme vous dites, ce serait quoi?
Sur le logement très social, la France ne produit que 30 à 35 000 PLAI, c'est-à-dire des logements très sociaux accessibles aux plus pauvres par an, accessibles donc par exemple à des ménages qui sont au RSA ou qui vivent des minima sociaux. Il en faudrait le double pour chaque année pour pouvoir sortir de la crise du sans-abrisme à l'échelle de 5 ou 10 ans parce que tout ça prend du temps et puis il faut ouvrir beaucoup plus de centres d'hébergement pérennes parce que les 14 000 places que vous citez qui sont l'effort gouvernemental fait cet hiver sont que des places précaires, souvent en gymnase ou dans des salles collectives. Parfois d'ailleurs, les personnes sans domicile fixe ne veulent pas y aller, ne veulent pas vivre dans des grands dortoirs. Et toutes ces places vont fermer à partir du 31 mars. Donc il faut un effort structurel, à la fois sur l'hébergement, sur le logement très social. Et l'État a fait un effort cette année, mais preuve en est sur le terrain, vu la situation des personnes, que cet effort est très insuffisant.
Voilà, pour suivre l'effort sur la durée. Merci beaucoup Florent Guéguin, directeur de la Fédération des associations de solidarité. Merci. Dans l'affaire de la viande avariée polonaise, les 150 kilos qui restaient à trouver ont été à peu près localisés, mais impossible à retirer du marché en grande partie. La viande ayant été commercialisée par des grossistes, elle a été mélangée à d'autres viandes d'origine différente. Quelques dizaines de boucheries et restaurants d'Île-de-France principalement sont concernés, sans aucun risque, rappelons-le, pour la santé des consommateurs. Les lots ont été importés en France en toute légalité et de bonne foi. Et c'est ça le hic pour Laurent Pinatel, le porte-parole de la Confédération Paysanne. Il était ce matin sur France Info.
Il y a un problème de logique. En France, on a trop de viande, puisque Emmanuel Macron est allé, avec à l'époque Stéphane Travert, ouvrir des marchés en Chine, ouvrir des marchés à Taïwan. Et là, on s'aperçoit qu'on va en acheter en plus en Pologne. Donc on se dit qu'en fait, on est dans un système complètement fou, où on est toujours en train de faire du commerce à travers le monde, sans aucune prise de conscience qu'au bout de la chaîne, il y a les consommateurs, et de l'autre bout de la chaîne, il y a les producteurs. Mmh. Et on respecte ni l'un ni l'autre. Donc c'est quelque chose qui nous paraît complètement délirant, en fait. Mais le nœud du problème, j'allais dire philosophique, c'est Est-ce qu'on doit considérer l'alimentation des gens comme quelque chose de marchand au point où on puisse y faire des fortunes dessus? On a l'impression qu'on parle aujourd'hui de cette viande polonaise comme si on avait parlé de pièces d'Airbus ou d'embrayage de voiture, quoi. On va la chercher à l'autre bout de l'Europe parce que c'est pas cher, et puis on sait pas où elle est passée. Je pense qu'il faut vraiment repartir des fondements de la société, à savoir que l'alimentation, c'est le pivot de la vie collective, et il va vraiment falloir avoir des vraies politiques de l'alimentation dans ce pays, quoi.
Le porte-parole de la Confédération paysanne au téléphone de Matteo Maestracci. La Pologne, justement, de gauche, homosexuelle et athée. A priori, pas évident de se lancer en politique dans ces conditions, dans un pays ultra-catholique dominé par les partis conservateurs. C'est un vrai défi que s'est lancé Robert Biedroń, l'ancien maire de Słupsk, une ville de 100 000 habitants au nord du pays. À 42 ans, Robert Biedroń, que certains comparent déjà à Emmanuel Macron, lancera tout à l'heure à Varsovie son parti politique résolu situé à gauche et qui plaide pour une séparation réelle de l'Église et de l'État. Au miracle, sa tournée dans le pays a partout fait sale comble et un sondage le classe troisième avec 10% des intentions de vote. Thomas Giraudeau s'est rendu dans la ville de Słupsk.
Dans une des rues commerçantes de Słupsk, Jacek, attablé en terrasse, café à la main, sourit à l'évocation de l'ancien maire.
Il a fait de bonnes choses pour la ville. Des routes ont été construites, il a consacré davantage d'argent à la rénovation des appartements, des maisons. Son mandat est très positif.
Robert Biedroń affirme aussi avoir réduit de près de 10 millions d'euros la dette de la ville. Mais ce n'est pas cela que retient Beata, cette grand-mère vend des fleurs dans la rue.
Je ne l'accepte pas à cause de son orientation. Il ne devrait pouvoir exercer aucune fonction. Je suis catholique et donc je fais une différence entre les hommes comme lui et les hommes normaux. C'était peut-être un bon maire, mais son orientation, ce n'est pas possible.
L'homosexualité de Robert Biedroń, tous les habitants l'évoquent, mais sans jamais prononcer le terme comme un tabou, un obstacle à son ascension politique pour Micha Outramer, directeur d'un théâtre à Słupsk.
Il ferait un très bon président de la République. Cela améliorerait l'image de la Pologne et la tolérance envers les personnes LGBT. Mais avec la place qu'occupe encore l'Église dans mon pays, c'est trop demander aux Polonais que de voter pour un homosexuel, ils ne sont pas prêts.
Mais Robert Biedroń croit en ses chances, il refuse pour l'instant de s'allier avec le parti conservateur au pouvoir ou ses opposants de centre-droit, tous deux trop éloignés de ses idées libérales et de gauche. Słupsk, Thomas Giraudeau, France Inter.
À l'étranger également, la France accentue la pression sur Nicolas Maduro, le président du Venezuela, par la voix de Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Elle dit lui laisser jusqu'à ce soir pour s'engager à organiser des élections présidentielles, faute de quoi la France reconnaîtra Juan Guaido comme le président par intérim, la même Nathalie Loiseau, qui juge absurde les règles européennes sur la concurrence. Ceci dit à propos du projet de fusion entre Alstom et Siemens, il faut aujourd'hui construire des champions européens, ajoute la ministre. En sport d'hiver, un titre mondial en ski cross pour le français François Place hier dans l'Utah. Troisième place pour Alizé Baron dans l'épreuve féminine et puis un deuxième titre mondial pour Tess Le Deux en ski Big Air. En Ligue 1 de football du mieux pour Monaco qui gagne enfin un match à domicile 2-1 contre Toulouse. Mais la descente aux enfers continue pour l'OM, défait chez les promus de Reims 2-1. Marseille désormais dixième au classement avec toutefois un match en retard. Et puis le coup d'envoi de la saison cycliste en France, c'est aujourd'hui avec le bien nommé Grand Prix de la Marseillaise, 145 km autour de la cité phocéenne, et l'occasion pour les coureurs de tester leur état de forme. Le doyen du peloton sera au départ Samuel Dumoulin, capitaine de l'équipe AG2R La Mondiale, originaire de Vénissieux dans le Rhône. Il remonte en selle à 39 ans, Cécilia Arbona.
Professionnel depuis 2002, Samuel Dumoulin dispose d'un palmarès fourni et d'une victoire d'étape sur le Tour de France 2008. 11 ans plus tard, le routier a la silhouette trapue, 1m59 pour 56 kilos, a quelques rides au coin des yeux, mais une motivation intacte.
C'est plutôt une satisfaction parce que ça prouve ma longévité et on peut s'appuyer sur moi. C'est évident que je suis moins omnibulé par le fait de lever les bras qu'avant, même si ça me ferait plaisir et que c'est mon ADN.
En octobre 2016, Samuel Dumoulin a surpris le monde du cyclisme en ouvrant ce qu'il appelle joliment une boutique de dessert à Jacob Bellecombette en Savoie.
Au début, je me suis beaucoup impliqué. C'était nouveau et je voulais que ça fonctionne.
Pour aider son frère Grégory, boulanger-pâtissier de formation.
Je suis heureux d'avoir créé ce projet avec mon frère, de lui avoir donné la chance de pouvoir réaliser son rêve. Pour ma part, je pense que j'aurais un avantage à essayer de rester dans le monde du vélo parce que c'est là que je suis le meilleur. En pâtisserie, je suis très mauvais. Donc autant mettre mon expérience au service des jeunes ou d'une équipe, d'un pôle de performance, je sais pas, mais c'est quand même là où je me sens le plus à l'aise dans la transmission.
La transmission comme nouvel horizon pour le garçon le plus expérimenté du peloton.
Voilà, il n'y a pas d'âge pour le vélo. Et on n'oublie pas, bien sûr, en rugby, l'entrée en fanfare hier soir des Bleus ES dans le tournoi féminin Destination 52-3 face aux Galloises. 9 essais. Un score qui fait rêver, bien sûr, les copains du 15 de France.